Merci de réagir autant. Parlant de quelque chose qui a fait réagir Mathias, hier, on a terminé l'entrevue avec Enrico Ciccone en se disant « Hey, il faut se reparler des jeunes, puis de la santé chez nos jeunes, du sport chez nos jeunes. » Et là, pataf, ce matin dans le Journal de Québec, augmentation de 5,5% de l'obésité au Québec en 10 ans, 29,4% d'obésité au Québec. On est la deuxième meilleure province, mais on est en montée fulgurante. Mathias, c'est très questionnant.
Ben oui, puis je pense que c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus inquiétant. On voit ce phénomène-là se répandre partout au Québec. Puis même si on est la deuxième province, la meilleure deuxième province au Canada, c'est pas parce qu'on se compare contre des moins bons qu'on est bon pour autant. Parce que pour moi, une personne sur trois au Québec qui est en situation d'obésité, c'est très, très, très élevé. Puis d'ailleurs, je me suis entretenu aujourd'hui avec une pédiatre endocrinologue, la docteure Mélanie Anderson, à ce sujet-là. Puis ce qu'elle m'expliquait tout d'abord, c'est que plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, dont la hausse du coût de la vie.
L'obésité, comme on se disait tout à l'heure, c'est multifactoriel. On a des composantes génétiques, on a des composantes d'habitudes de vie, on a des composantes de politique publique, mais on a également les enjeux que ce sont nos plus démunis dans la société canadienne qui sont affectés. Et donc, toute la situation actuelle au niveau du panier d'épicerie, puis au niveau de le pouvoir d'achat pour ces gens-là, c'est un problème majeur parce que si d'acheter du lait pour son enfant, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter un litre de Coke, ben c'est sûr que le choix va être facilement fait pour les familles pour qui toutes les scènes comptent.
Le collègue Marceau, ce matin, rappelait la statistique et avec raison, 80% de notre poids corporel est géré par notre alimentation, 20% par notre activité physique. Alors oui, en effet, le coût de la vie est un facteur immense sur l'obésité à l'heure actuelle.
Pis c'est triste de voir que c'est encore une fois les plus démunis de notre société qui sont touchés, autant sur les aspects de santé physique, d'obésité présentement. Puis également, il faut prendre en compte que pratiquer du sport au Québec, des fois, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher pour les familles devoir inscrire leurs enfants à plusieurs activités sportives. Si on commence à être une famille nombreuse, ça devient facilement des centaines et des centaines de dollars qui s'accumulent.
Tu as très raison. En passant, Martin te fait dire que tu fais une excellente job, Mathias, que tu t'améliores de jour en jour. Et commentaire très pertinent de David, la COVID qui a fait arrêter le sport chez ses deux plus vieilles filles, c'est un facteur également.
Oui, exactement. Puis ça ressortait dans le Journal de Québec également ce matin que plusieurs personnes avaient perdu leurs bonnes habitudes de vie en raison de la COVID. On le sait, on pouvait plus vraiment bouger. C'était difficile même par moment de sortir à l'extérieur. Il y avait le couvre-feu par moment. Certains marchaient trop. Je veux dire, il y avait plein de conditions qui pouvaient expliquer ça. Si on revient un peu aux familles, on parlait des familles les plus démunies qui sont impactées. Le chiffre, moi, qui m'a vraiment choqué dans cet article, on parle pas d'augmentation, mais on parle d'un chiffre qui est beaucoup trop élevé. 31% des enfants au Canada, un enfant sur trois au Canada, sont en surpoids.
Oh, ça n'a pas de sens.
C'est extrêmement élevé. Puis d'ailleurs, la Dr. Anderson m'a un peu expliqué ce qui peut expliquer cet énorme chiffre.
Donc, par exemple, tout le mouvement « Super Size Me », donc les portions qui sont vraiment très, très grandes, quand la restauration rapide qui est très accessible et moins coûteuse que des aliments plus sains.
Un bon McDo.
On peut parler de réduction de cours d'activité physique à l'école. D'accès plus difficile à des sports organisés, comme on discutait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment plein de facteurs qui viennent jouer. Mais pour moi, c'est que cette situation-là, même si on a un peu un plateau dans les chiffres sont tellement élevés, on parle d'une tellement une grande proportion de la population pédiatrique, mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que
mais c'est ça, c'est puis sans surprise, l'environnement alimentaire canadien présentement, avec tout ce qui est fast-food, avec tout, comme elle a dit, les aliments qui coûtent moins cher à l'épicerie présentement sont habituellement faits avec de moins bons ingrédients et sont moins bons pour la santé également. Donc tout ça cause problème et crée justement cette situation-là chez les jeunes. Mais là, ce qui devient inquiétant.
Les jeunes, là, quand ils sont obèses, restent-tu obèses?
Ben c'est ça, parce que oui, ben c'est ça qui commence à devenir inquiétant parce que des fois, on se dit, ah, un enfant qui a un petit surpoids, c'est son gros de bébé, il va le perdre. Ben, de ce que la Dr. Anderson m'a expliqué, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que ça, c'est pas du tout vrai, en fait.
d'avoir une obésité en bas âge, ce qui arrive, c'est qu'on cumule dans le temps les risques. Parce que auparavant, on pensait que l'enfant, surtout l'enfant en petite enfance, qui était un petit peu plus rondelet, que ce serait un enfant qui grandirait et perdrait. Hein, on parlait du gras de bébé qu'on perdait. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que l'enfant qui a une obésité à la petite enfance devient l'enfant d'âge scolaire avec une obésité, qui devient l'adolescent avec une obésité. Puis 80 % des adolescents avec obésité ont une obésité à l'âge adulte. Donc, ces enfants-là cumulent le risque dans le temps et vivent des complications métaboliques. Et ça, on le voit même chez les tout-petits loulous d'âge préscolaire.
Hey, c'est donc bien intéressant ce que la Dr. Anderson mentionne. Et tout à l'heure, on parlait d'activité physique, de coût de la vie. Yannick qui nous écrit: j'ai un petit gars qui joue au hockey pour s'amuser. Ça me coûte 800 $ d'inscription. Et là, les tournois s'en viennent. C'est très cher. En effet, c'est vraiment pas donné à tous. Et il y a un autre auditeur, auditrice qui a écrit, qui m'a fait bien rire. Elle dit: hey, je m'en allais manger tranquillement à la maison. Puis, Colin, vous venez de parler de McDo.
Mais c'est important. C'est quand même important de dire, même si on a envie de manger de McDo, puis ça nous prend tous par moment, c'est correct de faire de temps en temps, il n'y a aucun problème de se gâter, mais essayer le plus possible de limiter le fast-food, c'est
les
sûr.
Les problèmes d'obésité chez les jeunes, est-ce que ça amène des problèmes de santé plus graves?
Oui, bien, une autre affaire intéressante, des fois, on peut dire, ah, c'est pas grave, l'enfant, il est jeune, il a un bon métabolisme et tout, mais pourtant, de ce que la Dr. Anderson m'expliquait, c'est qu'elle a participé à une étude qui démontrait que présentement, on a une hausse de 60 % du diabète de type 2 chez les enfants. Ça, c'est environ une dizaine d'années, puis que parfois même, ce diabète-là, il est plus agressif chez les jeunes.
Quand on développe des complications métaboliques en bas âge, on voit que pour certaines complications en particulier, c'est beaucoup plus agressif que ce qu'on voit avec la même maladie à l'adulte. Puis le bon exemple de ça, c'est le diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, on en voit de plus en plus chez les enfants. Une récente étude auquel j'ai contribué démontrait que l'incidence a augmenté de 60 % sur 10 ans au Canada. Mais ces enfants-là, ils sont beaucoup, beaucoup plus malades que l'équivalent de la personne adulte qui développe un diabète de type 2. Ils ont des complications, un échec au traitement, leur mortalité est augmentée. Donc, on doit vraiment pas prendre à la légère les statistiques en lien avec l'enfant.
C'est vraiment très questionnant. Puis dis-moi donc, Mathias, est-ce qu'il y a des moyens justement de régler ça? Parce que là, la courbe est juste ascendante. Là. Ça fait peur. Là. Je reviens à COVID. Là. Le docteur Arruda, il faut baisser cette courbe-là. Il faut l'amener plus bas. On est capable de faire ça?
Oui, puis d'ailleurs, Christian nous écrit pour dire qu'il blâme beaucoup l'ignorance, la paresse alimentaire, la culture d'industriel. Donc l'ignorance. C'est sûr qu'il y a un travail de prévention à faire du côté du gouvernement. Mais malgré ça, pour la Dr. Anderson, la prévention n'est pas suffisante.
C'est sûr qu'on doit travailler la prévention, l'éducation auprès de la population sur comment on peut optimiser un poids santé, d'avoir les meilleures habitudes de vie possibles. Mais comme on a dit tantôt, ça ne relève pas exclusivement des habitudes de vie. Et donc, il faut qu'on n'ait pas seulement des mesures préventives, mais on doit avoir des mesures de prise en charge avec des cliniques multidisciplinaires pour venir répondre aux besoins de ces familles-là. Et puis ça, c'est quelque chose qui manque au Québec, même si on compare, par exemple, avec nos voisins en Ontario.
Ça me fait penser, me semble, à quelqu'un qui nous a parlé hier.
Oui, et qui nous a parlé du fait qu'un médecin ne pouvait pas nécessairement traiter de l'obésité.
Exactement. On l'écoute, Enrico Ciccolin.
Un, j'ai tenté de faire reconnaître l'obésité comme étant une maladie. T'sais, on est la seule personne qu'on le reconnaît pas. Là. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que ça va coûter cher de traiter l'obésité. Mais en même temps, l'obésité nous coûte plus d'un million par année. Aïe, ça n'a pas de bon sens. Là, parce que tu dis, OK, parce qu'un médecin, il faut comprendre ça, là, ce qui est complètement paradoxal, là. Si vous avez un problème de poids, là, OK, vous allez chez le médecin, mais le médecin ne peut pas vous traiter pour l'obésité. Il va vous traiter pour le diabète, des problèmes cardiovasculaires. Il va vous traiter pour tout le reste, mais il ne peut pas vous traiter pour l'obésité. Alors que si on était capable de reconnaître l'obésité, par exemple, comme étant une maladie, mais là, on pourrait traiter à la base et à la source cette problématique-là qui réglerait d'autres problèmes, là.
C'est intelligent. Ce qu'Enrico Ciccone a mentionné, c'est exactement dans la même veine que la Dr. Anderson.
Oui, puis on voit que changer des habitudes de vie, perdre du poids, c'est très difficile. Mm-hmm. Donc forcément, c'est bien de faire de la prévention, mais des fois, il y a des moments dans ta vie, ça peut être plus difficile. Ça se peut que tu perdes des habitudes de vie par un moment, puis que tu prennes du poids. Ouais. Mais c'est important de dire, hey, on va te donner les ressources nécessaires pour encourager cette perte de poids-là. Surtout que là, on voit justement que 80% des adolescents en situation d'obésité le restent à l'âge adulte. Mm-hmm. Donc, une situation qui arrive très, très jeune, bien, ça perdure dans le temps. Il faut pouvoir donner les moyens à ces personnes-là de pouvoir remédier à cette situation-là.
Tellement. Merci beaucoup, Mathias. Dossier très, très, très intéressant et dossier qu'on va suivre dans l'actualité. À souhaiter qu'on ne fasse pas juste s'assiner sur des dossiers de santé numérique à l'Assemblée nationale et qu'on regarde justement des dossiers comme ça de santé chez nos jeunes qui sont primordiales. Mathias, sais-tu quoi? Il va faire 24 degrés dimanche.
Oh, on est gâtés.
C'est le fun, ça?
Ah, c'est le fun, certain.
Ouais, on va être gâtés. On a eu une belle semaine. On a eu une belle semaine. Mais là, à 24 degrés, là, le rouge et or joue. Ça, dimanche 5 octobre, des 13h. Au stade TELUS. Il y a déjà plus de 16 000 billets vendus. C'est contre les Seniors de Concordia, puis on va souligner les 30 ans du club de football Rouge et Or. On va présenter les meilleurs jeux de l'histoire sur l'écran géant et il va y avoir les meilleurs joueurs de l'histoire aussi qui vont être présents des éditions championnes du Rouge et Or. C'est à 13h. Là, tu te dis 16 000 billets, 24 degrés. Ouais, je pourrais en prendre, je vais être admission générale. Bah, je vais me promener sur le bord du terrain. Ça me tente-tu, ça me tente-tu pas, mais ça tombe bien. Moi, j'ai une paire de billets à faire tirer. Pas pire, hein?
Hey, on garde tes auditeurs.
On garde les auditeurs drôles, là. J'ai dit qu'il faisait combien de degrés dimanche, Mathias?
24 degrés.
24 degrés. Textez votre nom avec votre numéro de téléphone et 24 degrés. Textez-nous ça au 418-971-1021 et vous allez courir la chance de gagner une paire de billets pour le Rouge et Or de l'Université Laval ce dimanche. Il est déjà en studio avec nous, c'est l'ami Farnel Morisset qu'on adore. On fait une courte pause et par la suite, Farnel va nous parler de la situation à Gaza, situation d'aide humanitaire qui a de la difficulté à atteindre la bande de Gaza, donc situation de famine. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase.